Bonsoir à tous. J'espère que vos cœurs sont tout ouïs et que vous êtes prêts simplement avec moi à ouvrir cette sainte parole, la Bible. Amen. Ouvrez-la premièrement dans le livre des Actes, au chapitre 9 et au verset 1er. Actes, chapitre 9, verset 1er. Cependant, Saul, respirant encore le meurtre et la menace contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Amen. Et notre texte, dans le livre d'Osée, peut-être vous n'êtes pas obligé de le chercher, Osée, chapitre 4, verset 1er. Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Prenez le chapitre 6 et au verset 3. Le constat a été fait par le prophète un peu plus tôt, il n'y a pas de connaissance de Dieu dans le pays. Et donc, Osée 6, 3, il est dit « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps arrose la terre. Amen. » Et on peut dire « Jésus est venu ». Jésus est venu, et de la même manière que c'était le cas, ils étaient dans l'attente, nous pouvons être encore aujourd'hui dans l'attente du retour du Seigneur Jésus. Qui attend le retour du Seigneur Jésus? Je l'attends. Et attendre, ça veut dire se préparer à son retour, se tenir prêt, faire ce qu'il faut pour que lors de son avènement, nous ne soyons pas confus, honteux, mais nous soyons prêts, tout simplement. Une dernière lecture, s'il vous plaît, dans l'Épître aux Romains. Romains, au chapitre 1 et au verset 28. Plusieurs lectures, excusez-moi, ça vous entraîne pour chercher dans les livres. Épître aux Romains, chapitre 1er, verset 28. « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés, à leur sens, réprouvés. » Et on peut dire « Amen » malgré tout. Seigneur, encore une fois, je te prie pour que tu nous ouvres notre esprit, pour que tu nous ouvres notre cœur. Seigneur, que tu arrives à graver dans ce cœur, Seigneur, toutes tes paroles, toutes tes pensées, toute ta volonté, Seigneur, pour nous encore ce soir et pour notre vie. Donne-nous encore, Seigneur, d'avoir soif, soif de toi, Seigneur, de ne pas rester comme ces personnes éloignées de toi, mais de chercher plus de toi, toujours plus de toi. Et si quelqu'un ne te connaissait pas ce soir, tu te révèles à son cœur, tu ouvres son esprit aux réalités spirituelles, au besoin qu'il a, Seigneur, de s'humilier devant toi, de reconnaître ses péchés et d'accepter tout ton amour, Seigneur, puisque tu n'es pas là pour écraser, pour punir, pour reprendre, pour juger maintenant, mais tu es là d'abord pour sauver. Un jour viendra le jugement du monde, mais aujourd'hui, c'est jour de grâce, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Nous avons fait quelques lectures. La première, nous avons vu qu'un homme était vraiment zélé pour travailler pour le Seigneur. Vous le connaissez sûrement. Cet homme qui s'appelle Saul, Saul de Tarse ou bien Paul plus tard. Saul était là, un homme qui respirait le meurtre, la menace, qui pourtant croyait servir Dieu, mais qui persécutait ceux qui confessaient le nom du Seigneur Jésus, ceux qu'on appelait les chrétiens, ceux en tout cas qui avaient dit « Moi, Jésus, c'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur ». Ceux qui croyaient au beau nom de Jésus et à son œuvre sur la croix. Saul était là, il les persécutait, il ne pouvait pas imaginer que Dieu était dans l'affaire. Et que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, on l'a lu, il allait, il avait des lettres où on lui autorisait à faire cela, il allait, il prenait ces personnes, il les jetait en prison. Et certains étaient lapidés, étaient tués, on a l'exemple d'Étienne dans la parole. D'un coup, il va être en chemin pour continuer sa besogne, et il va avoir une révélation particulière. Il est sur son cheval, il va tomber, une lumière se fait paraître, et puis il va entendre une voix, il va demander « Mais qui es-tu ? » Il va dire « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » On sait que Jésus, c'est le Fils de Dieu, vous le savez. Cet homme croyait connaître Dieu. Mais puisqu'il ne connaissait pas Jésus, il ne connaissait pas Dieu. On a lu un deuxième texte dans Osée chapitre 4, verset 1er, où il était dit « qu'il n'y avait pas de connaissance dans le pays. Et Osée va un peu plus loin dire de la part de l'Éternel, lui qui est prophète. Il va dire, mais connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Parce qu'il revient, il vient en tout cas, cherchons à le connaître. Cherchons à le connaître. Et puis un peu plus loin, on voit que beaucoup de personnes auront entendu cela, qu'il faut chercher à connaître l'Éternel, mais ne l'auront pas fait et se retrouveront à être livrés à leur sens réprouvés. Et c'est ce qui se passe de nos jours aujourd'hui. Tout ce qu'on voit, hein, vous avez vu, les circonstances, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on réalise, et puis c'est détaillé dans la lecture, dans le premier chapitre de Romains et le deuxième chapitre, que les hommes feront ce qu'ils font aujourd'hui, d'aller homme avec homme, femme avec femme, etc., des choses comme cela, sans apporter un jugement sur les personnes, une condamnation personnelle, simplement. Je veux rappeler ce que la Bible a dit et ce qui arrive donc aujourd'hui. Tout ça parce qu'on ne s'est pas soucié de connaître Dieu. Je veux parler aux enfants de Dieu ce soir, premièrement. Et nous poser la question, nous qui croyons être enfants de Dieu, nous qui savons sûrement, est-ce qu'on a soif de connaître encore Dieu ou est-ce que ce qu'on connaît de lui, ça nous suffit? Monsieur de Dieu, Norbert, est-ce que vous connaissez l'Éternel? Ah, mais vous avez répondu à la deuxième question. Vous connaissez, oui. Et est-ce que ce qu'on connaît de Dieu nous suffit? Elle est là la question. Est-ce que ce qu'on a connu de Dieu, est-ce qu'on a vécu comme expérience, est-ce que ça nous suffit? On dit, ben ça me suffit bien, ça y est, je vais faire avec ça toute ma vie. Ou est-ce qu'on a encore cette réelle soif de Dieu dans notre cœur? Tu peux mettre le diapositive pour nous aider à bien suivre, puisqu'il va y avoir plusieurs points. J'ai fait un petit diapositive qui va résumer, qui va nous aider à suivre. Alors vous voyez, il n'y a pas de foufou, etc. Simplement donner un titre. Soif, avoir soif de la connaissance de Dieu. Avons-nous encore soif de connaître Dieu? Un réel dilemme. Un jour, je suis allé faire une visite d'une mamie, et puis je savais qu'elle n'allait pas bien physiquement, etc. Et puis, au-delà de parler que du physique, on en est venu au spirituel, et je lui ai posé la question, mais sœur, est-ce que vous trouvez dans la parole de Dieu encore de quoi avoir le moral restauré, la santé restaurée aussi, le courage, la foi encouragée et puis enrichie? Est-ce que vous aimez lire la Bible? Elle me dit, la Bible? J'étais stupéfait. Elle m'a dit, la Bible? Mais ça y est, j'ai tout lu dans la Bible. Ben, c'est bien que vous ayez lu la Bible, mais je ne vous parle pas de ça. Est-ce que vous cherchez encore ce qu'il vous faut pour tenir bon? Mais c'est bon, je la connais la Bible. Je la connais, ça suffit. C'est bon, je l'ai lu une fois, deux fois, trois fois. Tu sais, mon petit, comme elle m'appelait, hein, je rentrais dans le ministère. Et encore aujourd'hui, on pourrait me dire mon petit, ça ne me dérange pas. Mais elle me disait, mon petit, tu sais, ça fait 40 ans que je suis au Seigneur. Hein. Je dis, d'accord, mais je crois qu'on n'aura jamais fait le tour de toute la pensée de Dieu pour connaître Dieu parfaitement. Et toute notre vie, on a de quoi fouiller dans la parole de Dieu pour y trouver ce dont il nous faut, ce dont on a même besoin, et puis des choses extraordinaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand on ouvre la Bible, on découvre au moment opportun, le jour J, comme par hasard, eh bien une parole pour nous, une parole d'encouragement, où on se souvient, la Bible nous rappelle quelque chose qu'on avait déjà entendu, et ça retouche notre cœur, ça nous avait fait du bien, c'est rappelé à notre âme, « Ah c'est vrai, je l'avais oublié, je m'en souviendrai, allez je repars avec ça. » Il y a tout ce qu'il faut, et même ce dont nous avons besoin dans la parole de Dieu. Avoir soif de Dieu. Le diapositive suivant nous dit le premier point, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Suivant, la flèche. Voilà, super. Premier point, pourquoi avoir soif? Deuxième point, les pièges à éviter. Les attitudes pour connaître Dieu, les outils donnés pour la connaissance de Dieu. Et le point de départ, parce qu'il faut que ce soit concret. Qu'est-ce que vous en pensez? Faire de la théorie, c'est bien, mais il faut que ça termine par du concret. Pourquoi avoir soif de connaître Dieu? Diapositive suivante. Merci. Premièrement, parce que c'est la volonté de Dieu. Nous qui avons choisi d'être des disciples, c'est-à-dire des personnes à l'école du Seigneur Jésus, nous qui nous sommes mis volontairement à l'école du Maître, il nous est dit dans la parole que Dieu veut que nous ayons de la connaissance. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4, je vous le lis, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et dit, celui qui me connaît, connaît le Père. Dieu veut que nous ayons de la connaissance. Il est dit dans d'autres textes, dans mes recherches, j'ai trouvé des textes comme cela. L'un disait que Dieu répandait la bonne odeur de sa connaissance sur la terre. Le souhait de Dieu, c'est que ses enfants le connaissent bien. Que diriez-vous si vos enfants disent un jour à quelqu'un d'autre, « Mes parents, mais je ne le connais pas. » Ça vous ferait mal au cœur. Dire, « Mais tu sais, mon père, ma mère, je ne l'ai jamais connu. Il m'a abandonné, c'est peut-être le cas de quelqu'un ce soir. » Dieu, il ne vous abandonnera pas. Jésus ne vous abandonnera pas. Il veut même qu'on le connaisse et qu'on grandisse dans notre connaissance de lui. C'est la volonté de Dieu que nous le connaissions. Deuxième chose, c'est la vie éternelle. Connaissez-vous ce texte dans Jean 17, 3 qui dit « Or, la vie éternelle, c'est-à-dire la qualité de vie, une vie épanouie sur la terre en communion avec Dieu, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, le Seigneur Jésus-Christ. » Vous connaissiez ce texte, Jean 17, 3. Connaître Dieu, c'est la meilleure des vies qu'on puisse avoir sur la terre. Ça nous procure une vie, une qualité de vie que le monde ne peut pas proposer, ne peut pas donner. Troisième chose, Dieu est infini. Qui peut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, « Oui, j'ai fait le tour de la question. J'ai fait le tour de la personne de Dieu. » Dans Psaume 139, il est dit que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Qui a déjà compté le nombre de grains de sable sur le bord d'une plage? Rien qu'une seule plage de la planète. Le nombre des pensées, on pourrait le dire comme ça, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, les plans de Dieu sont tellement incommensurable, tellement grand, tellement infini qu'on ne peut pas en faire le tour humainement parlant. Une personne seule ne pourra jamais faire le tour de tous les plans de Dieu, de toute la personne de Dieu. Rien que son amour est infiniment grand. Et la vie d'un homme, disait quelqu'un, après avoir recherché toute sa vie à connaître l'amour de Dieu, ne serait comme que seulement, prenez cet exemple, dire que c'est comme si une personne, elle n'avait juste que goûté à un océan. Si quelqu'un passait sa vie à chercher à connaître l'amour de Dieu, au fin, à la finalité, au résultat, ça serait que de goûter un petit peu un magnifique océan, un géant océan. Dieu est infini et il ne veut pas qu'on s'en contente à quelques points de sa vie, quelques particularités de son caractère, quelques attributs de Dieu. C'est bien de savoir que Dieu est amour, c'est bien de savoir que Dieu est saint, c'est bien de savoir ces choses, mais sais-tu que Dieu est l'Éternel qui te guérit? Que Dieu est l'Éternel de paix, etc., etc. Il y a tant de choses à découvrir du Seigneur. Pourquoi aussi avoir soif de connaître Dieu? Parce que la prochaine génération doit connaître Dieu. Dans Juges chapitre 2, verset 10, j'ai été étonné. Il est dit, toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva auprès d'elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Résultat, les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals, les faux dieux. Vous savez qu'on a une responsabilité pour les enfants qui nous suivront, pour la génération qui va nous suivre. Et que si jamais la génération qui nous avait précédé n'avait pas tant connu le Seigneur, cherché à le connaître aujourd'hui, sûrement que notre génération serait encore pire que ce qu'elle est aujourd'hui. Et qu'on a tous un rôle. N'importe quel âge qu'on a, qu'importe notre âge, qu'importe notre situation, on a tous le rôle de chercher à connaître Dieu. Et tellement le connaître qu'au point, au point qu'on va être obligé de parler de lui. Vous avez entendu ce qu'on a lu? Il est dit qu'il y a une génération qui a suivi une autre, qui ne connaissait pas Dieu et qui ne savait pas ce que l'Éternel avait fait pour Israël. Je ne sais pas, mais quelque chose d'aussi grand que d'ouvrir la mer Rouge, que de libérer un peuple de centaines de milliers de personnes, que de le garder, des vêtements qui ne s'usent pas, de la nourriture qui tombe du ciel, des plaies qui s'abattent sur les ennemis pour que l'ennemi lâche le peuple. Toutes ces choses qui ont été faites, et j'en passe, Jéricho, etc., et toutes les victoires qui ont été remportées, les miracles, tout ce qui s'est passé, eh bien, il y a une génération qui n'a pas été enseignée par ses pères, par ses mères. Est-ce qu'on a encore le souci de faire le culte de famille? Question. Est-ce qu'on a encore le souci d'emmener nos enfants à l'école du dimanche? Est-ce qu'on a le souci d'emmener nos enfants aux réunions de prière? Non. Eh bien si, ça existe. Je ne dis pas de ne pas être sage, de ne pas laisser se reposer. Je ne dis pas qu'il y a un équilibre à avoir en tout. Mais est-ce que ça serait bien quand même que nos enfants aient assisté au moins à 1, 2, 10 réunions de prière dans leur enfance? au moins connaître ça, l'école du dimanche, ou bien nous-mêmes les cultes de famille. Ne privez pas les enfants de ça. Et peut-être que c'est pas facile, peut-être que ça demande une certaine discipline de s'organiser, mais faisons-le. C'est très très important. Il y a des moniteurs qui prient, qui, j'en suis sûr, qui jeûnent. Il y a des moniteurs qui se préparent, qui méditent la parole pour enseigner, pour donner un enseignement correct aux enfants. Et quand les enfants y vont, je suis sûr qu'ils reçoivent quelque chose d'essentiel pour leur vie future. Il est dit, enseigne l'enfant. Et dans sa vieillesse, il s'en souviendra. Quelque chose d'important. Je ne veux pas que la génération future, je ne veux pas que mes enfants ne sachent pas qu'on peut prier Dieu, qu'on peut s'attendre à Dieu, qu'on peut s'attendre à ce que Dieu réponde même aux prières. Je ne veux pas que mes enfants soient ignorants de la volonté de Dieu. Je ne veux pas que mes enfants, mes garçons, soient ignorants de l'amour, mais aussi du châtiment qui s'abattra sur ceux qui refuseront l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Je veux que mes enfants le sachent. Je ne pourrai jamais faire le choix à leur place. Ça, ça leur appartient et je ne les forcerai pas. Mais je veux qu'ils soient au courant, qu'ils soient en capacité de choisir parce qu'ils auront entendu. Vous comprenez? J'enseigne mes enfants des petits chants. Et j'ai été surpris de voir Élie, qui a 3 ans, à la maison, chanter des chants que je n'y ai pas appris. Parce qu'il les a appris à l'école du dimanche. Hein? Le fou sur le sable a bâti sa maison. Il fait que chanter ça. Ou alors, le savon lave mon visage. Et d'un coup, je l'entends chanter ça. Et je dis, mais où est-ce qu'il l'a appris, tiens? Ça me rappelle moi, quand j'étais petit. Mais et c'est bien, il retient. Je voudrais encourager les moniteurs, les monitrices. Continuez, c'est un travail important, même indispensable. On ne réalise pas le poids que ça a dans le ciel pour les choses spirituelles et pour l'éternité, pour le salut de ces petits-enfants. Viennent-ils qu'une seule fois? Peu importe. Ce qui a été semé. Amen. La génération qui suit doit savoir, parce qu'on aura pris connaissance de Dieu, qu'on peut connaître Dieu, qu'il n'est pas éloigné, que ce n'est pas un Dieu qui veut punir, qui veut châtier, qui veut perdre, mais un Dieu qui veut sauver, parce qu'il nous aime, parce qu'il les aime. Et pourquoi avoir soif de connaissance? Ben parce que Dieu sait tout. Et ça vaut le coup quand même de connaître quelqu'un qui sait tout. Au moins à son contact, je vais grandir en connaissance. Je pourrais lui poser des questions, il va m'enseigner. Vous savez que Dieu sait tout? Regardez, Ésaïe 40, verset 13. « Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils ?» Verset 22. « Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous pas réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. » Ça fait quelques centaines d'années, ça fait un peu plus de 100 ans, ça ne nous surprend plus d'entendre le cercle de la terre. Mais quand ça a été écrit, il y a plus de 1000 ans, il y a plus de 2000, attends, il y a 2800 ou 2400 ans, les gens croyaient que la Terre était plate. Ou en tout cas, il y avait peut-être que les chrétiens qui croyaient vraiment que la Terre était ronde, parce que c'était écrite. Dieu sait tout, lui on ne le trompe pas. Juste après, je ne l'ai pas noté, mais il est dit que Dieu a déroulé le ciel comme une tente, comme un drap, etc. Scientifiquement parlant, on sait que le ciel, les étoiles sont posées sur un drap. C'est expliqué, c'est prouvé. Et Dieu le savait, puisque c'est lui qui l'a fait. Comment ne pas se tromper dans les choix de notre vie? Eh bien, apprendre à connaître Dieu. Et plus je le connaîtrai à lui, plus je saurai aussi ce qui est bon pour moi. Et il m'aidera dans mes choix. Deuxièmement, diapositive suivant, les pièges à éviter. Pourquoi avoir soif, on l'a vu, mais maintenant, beaucoup de personnes se sont découragées dans leur recherche, dans leur quête de connaissance de Dieu. Beaucoup de personnes se sont arrêtées, ils ont commencé à tourner en rond et ne pas découvrir d'autres choses. Et il y a des raisons à cela. Les pièges à éviter, pourquoi? Eh bien parce que les gens se sont arrêtés à comprendre les choses avec leur cerveau, sans chercher à les trouver. Ils savent que Dieu les aime, ils savent qu'ils peuvent être sauvés, ils savent que Dieu est bon, ils savent que Dieu peut exaucer. Mais ils ne cherchent pas à vivre ces choses. Et il y a des gens qui sont dans des écoles bibliques, qui passent leur vie à étudier la Bible, mais qui ressortent avec leur foi détruite même. Vous savez ça? Parce qu'ils cherchent à comprendre avec leur cerveau sans chercher à comprendre avec leur cœur, parce que quand on comprend avec le cœur, on a le désir de vivre les choses et de les trouver. J'ai pas dit ça par hasard, on va le voir un peu après. D'ailleurs, on va le faire maintenant, tenez. Proverbe. On va lire dans Proverbe, chapitre 2, versets 1 à 5. Un texte qui va nous servir à comprendre les pièges à éviter, aussi l'attitude qu'il faut avoir pour connaître le Seigneur. Proverbes chapitre 2, verset 1er. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, ou si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Vous avez vu, mon fils, si tu reçois, si tu gardes, si tu rends attentive ton oreille, si tu inclines ton cœur, si tu appelles, si tu élèves la voix, si tu cherches, si tu poursuis, alors tu comprendras, mais juste après, tu trouveras la connaissance de Dieu. On comprend des choses à chercher à connaître Dieu, mais il faut qu'on trouve la connaissance de Dieu, qu'on trouve les choses de Dieu. La première chose, ne pas s'arrêter à comprendre, mais chercher à comprendre au point de trouver et de vivre les choses. Deuxièmement, les fausses doctrines. Il y a des gens, ils sont tellement en quête de savoir qu'ils cherchent partout et pas où il faut. Il y a, la Bible nous avertit, que dans les derniers temps, il y aura des faux docteurs, des faux prophètes, des faux pasteurs. Il est dit qu'il y aura des fausses doctrines. Et que les gens, dans 2 Timothée 4:3, ils se donneront une foule de docteurs. Et je crois que le plus grand des problèmes, il est là. Comment il nous est dit dans la Bible, si vous lisiez 1 Jean ou 2 Timothée, qu'on reconnaît un faux docteur, un faux prophète? Comment est-ce que ça nous est dit? Eh bien, on les voit vivre. Le seul moyen, le moyen le plus efficace pour connaître quand quelqu'un est un faux docteur, quand c'est une fausse doctrine qu'on m'annonce, c'est en regardant la personne qui vous annonce ces choses vivre. Je vous laisserai lire 1 Jean, la première épître de Jean, c'est ce qu'on étudie avec la jeunesse en ce moment. Et on voit qu'il y aura des faux docteurs qui marchent dans les ténèbres et qui font les œuvres des ténèbres. Et beaucoup de personnes, j'en viens à mon sujet, à mon thème, beaucoup de personnes cherchent sur Internet les prédications qui leur plaisent. Ou cherchent sur Internet toutes sortes de prédications. Et c'est bon d'avoir des ressources. La preuve, l'Église a un site Internet. Mais je crois que le meilleur moyen pour ne pas se laisser piéger parce qu'il y a de tout et de n'importe quoi. Je l'ai vécu encore il n'y a pas très longtemps. Je vais sur un site chrétien où j'ai un ami qui travaille, qui s'occupe de ce site. Je vais dessus et je regarde un petit peu les nouvelles prédications qui sont arrivées. J'aime pas, je fais jamais ça, mais cette fois-ci, j'ai dit, tu vas voir. Et j'ai vu un petit peu tout ce qui est raconté et qui égare les gens. Et c'est très séducteur parce que ça paraît vrai. Et je vais vous dire quelque chose. Avant de recevoir quelque chose, voyez la personne qui vous l'annonce vivre. Et éprouvez tout ça dans la parole de Dieu. Comparez. Mais certaines personnes n'ont pas de quoi comparer à cause du manque de connaissances ou bien du fait qu'ils sont nés de nouveau très, très dernièrement. J'ai une personne que j'ai rencontrée un jour à une assemblée, une petite assemblée. Un soir, elle est venue comme cela. Elle m'envoie presque toutes les semaines des mails avec une nouvelle prédication, une nouvelle doctrine qui arrive, etc. Et elle est complètement perdue parce qu'elle se mélange. Elle se mélange et elle accepte tout ce qu'elle veut parce qu'elle n'est pas encore affermie dans le Seigneur. Et elle n'a pas de vie d'église. Elle ne va jamais à l'église. Elle cherche tout sur Internet. Et je crois qu'on a besoin de trouver quelqu'un qui va nous enseigner, qu'on puisse aussi voir vivre, avec qui on peut discuter, avec qui on pourra apprendre à faire connaissance. Et ne pas chercher une foule de docteurs. Parce que dans tout cela, il y a des personnes qui disent de belles paroles séductrices, mais dans leur vie, ils ne sont pas à marcher comme le Seigneur veut. Et c'est déjà le fruit. On reconnaît un arbre à son fruit. Comment je vais reconnaître le fruit de quelqu'un que je ne connais pas? Veillez à ça. Je vous le dis et je vous demande de prier pour ça. Je ne dis pas avoir une vérité absolue, mais je crois qu'il y a un grand danger sur tout ce qu'on trouve sur Internet. Et il faut vraiment, vraiment veiller. Les fausses doctrines. Des fois, on s'est fait piéger. Et on s'est dit, j'arrête. J'ai été déçu. On m'a raconté n'importe quoi, j'arrête. Et quelqu'un a été stoppé dans sa quête de croissance, dans la connaissance de Dieu. L'égoïsme. Dieu ne me donnera jamais de la connaissance pour moi tout seul. S'il me donne de la connaissance, s'il me donne de la semence, c'est pour que je la sème à mon tour. Et il ne faut pas que je garde les choses que pour moi, il faut que j'ai à cœur de les répandre après autour de moi, de les redistribuer. Soyons des témoins. Ayons à cœur vraiment d'être des témoins dans toute notre vie et de partager ce que l'on reçoit. L'orgueil, il est écrit « la connaissance enfle ». Ce n'est pas la connaissance de Dieu qui enfle, jamais. Mais c'est quand on cherche à connaître avec notre cerveau. On enfle, et tellement on grossit qu'on écrase les autres. La connaissance que Dieu nous donne, ce n'est pas pour écraser. Je ne suis pas là pour écraser ce soir. Je suis là pour tous nous parler, moi le premier, et me dire que j'ai besoin et je dois toujours et continuellement avoir soif de grandir avec le Seigneur. Troisièmement, quelle attitude pour pouvoir connaître Dieu ? S'il y a des pièges à éviter, il y a des choses à adopter. On a lu un texte dans le livre des Proverbes, il est dit « Mon fils, si tu reçois ». Premièrement, il faut recevoir. Recevoir, c'est accepter, c'est pas ça. C'est juste avant, non ? Après, alors ? Recevoir. Recevoir, c'est accepter la parole de Dieu. Beaucoup de personnes s'arrêtent, ils lisent, mais ils ne reçoivent pas dans leur cœur, ils n'ouvrent pas leur cœur pour recevoir la parole de Dieu. Deuxième verbe qui est dit, c'est « si tu gardes ». Garder la parole qu'on a reçue, c'est regarder comme précieux ce que l'on a reçu. Est-ce que la parole est toujours précieuse à nos yeux ? Le commandement de Dieu, mais aussi le conseil de Dieu, est-ce qu'il est toujours précieux à nos yeux ? Dans Jean, chapitre 14, verset 15, « si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Gardez mes commandements. Troisième verbe, « rendre attentif ». Rendre attentif son oreille, c'est considérer comme important. Il y a des choses précieuses, il y a des choses importantes. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. La parole de Dieu, c'est un message céleste qui nous est donné pour une vie spirituelle, en forme, épanouie, au milieu et dans notre vie, au milieu de nous. Être attentif aux paroles de Dieu. La quatrième chose, c'est, il est dit, je saute un petit peu, je vais un peu après, si tu inclines ton cœur à l'intelligence. Il est parlé là d'humilité. Je ne pourrai pas grandir dans la connaissance de Dieu si je n'ai pas une certaine humilité devant Dieu. Je ne peux pas arriver devant Dieu et me comparer à Dieu. Je ne peux pas arriver devant la parole de Dieu et juger la parole de Dieu. C'est pas grave, vous laissez pas vous déconcentrer. Je ne peux pas arriver dans un tel état d'esprit. Il faut que je vienne avec humilité devant Dieu. La parole de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, plus de 40 auteurs, plus de 2500 ans pour qu'elle soit écrite. À moi tout seul, je ne peux pas tout connaître. Et il me faut de l'humilité pour réaliser qu'il me faut du temps pour apprendre les choses et que j'ai besoin du secours de Dieu pour apprendre de Dieu. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 2. Job chapitre 11, verset 7. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant ? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu ? Plus profonde que le séjour des morts, que sauras-tu ? Quatrièmement, diapositive suivante, ou avant, les outils pour connaître Dieu. Dieu nous a laissé des outils pour le connaître. Les outils, premièrement, la parole de Dieu. Vous avez vu, mon fils, si tu reçois mes paroles. La parole de Dieu, c'est l'instrument par excellence pour nous faire connaître le Seigneur. Si quelqu'un me dit autre chose que ce qui est écrit ou quelque chose de contraire, c'est lui qui a tort, c'est pas la Bible. Vous êtes d'accord avec moi ? Et ça doit rester comme ça. Le fil à plomb pour bâtir notre vie, pour bâtir notre foi, c'est la parole de Dieu. On tire de ce trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. Ça ne veut pas dire qu'il y avait des choses pour autrefois et des choses qui sont pour aujourd'hui, des choses qu'on doit mettre de côté et des choses qu'on doit avoir pour aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y avait, sur le même texte, il y a une réalité pour la personne qui l'a vécu au temps où il l'a écrit. Est-ce que vous comprenez ? Il y a des choses anciennes, ça veut dire que dans ce texte, il y a un contexte. Et je ne peux pas sortir le texte de son contexte. Il faut que je regarde pourquoi est-ce qu'il a écrit ça, pourquoi est-ce que c'est dit. Mais aussi des choses nouvelles, parce que ce qu'il a vécu m'enseigne pour aujourd'hui. Et je peux tirer un enseignement aujourd'hui. Et même quelquefois, le Saint-Esprit peut nous donner une parole. Un texte peut nous rappeler un texte pour nous encourager, ça tombe à propos. Et ça nous encourage. Comme le jour où j'étais dans l'hôpital, je venais de brûler, il est dit, si tu passes par l'épreuve de la fournaise, ou par la fournaise de l'épreuve, je venais de brûler. Je dis, mais c'est à propos. Pourtant, dans le contexte, il y a un sens particulier. Mais le Seigneur a pu me parler comme cela. Deuxième instrument, la prière. Prier sans cesse. Et dans la prière, je mets le parler en langue. Le parler en langue, ce n'est pas diabolique. Le parler en langue, ce n'est pas à mettre de côté. Le parler en langue, c'est essentiel pour notre vie. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue dit des merveilles de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 4, et dans Actes, chapitre 2. Quand je parle en langue, je parle à Dieu. C'est ce qui est écrit. Et j'ai besoin du parler en langue pour m'édifier moi-même. Je dois aspirer à être rempli de l'Esprit Saint. Et je dois aspirer à vivre tous les charismes de Dieu, toutes les manifestations spirituelles que Dieu a prévues pour moi. Et si on en a peur, il faut demander, Seigneur, rassure-moi, je sais qu'il y a eu des débordements, que des gens ont utilisé ces choses vraiment de manière diabolique. Le diable a transformé ces choses, il a fait le singe, il a recopié ces choses et il les a utilisées pour perdre les gens. Mais moi, Seigneur, je veux un parler en langue authentique, je veux un esprit authentique, je veux des expériences authentiques. Seigneur, fais-moi vivre toute ta parole et je veux prier en langue. Le jeûne dans la prière. Le jeûne, Dieu veut aussi qu'on utilise le jeûne pour connaître Dieu. Il y a des choses dans notre esprit, dans notre cœur qui se débloquent lorsque l'on jeûne et que l'on prie, qu'on passe du temps devant la face de Dieu. Mais je crois qu'aussi le jeûne, c'est comme c'est dit dans la parole de Dieu, c'est partager son pain. C'est pas toujours se priver de nourriture, le jeûne. Le jeûne, c'est aussi prendre de son pain et l'offrir, inviter quelqu'un à sa table et le partager. Et le jeûne aussi, c'est dit, c'est délier les liens de la méchanceté. Le jeûne, on a beaucoup de choses à apprendre dessus. Mais le jeûne est un des instruments avec la prière qui nous est donnée. Et troisièmement, l'onction. Dans 1 Jean, il est dit que l'onction nous enseigne toutes choses. L'onction, c'est écrit comme ça, mais ailleurs, il est dit que l'Esprit Saint nous conduira dans toute la vérité. L'onction, l'Esprit, c'est la même chose, sauf que dans l'onction, je comprends une chose. Le mot consécration. Un des outils que Dieu utilise, c'est l'onction pour nous conduire dans la connaissance de son nom, de sa personne. Et l'onction vient quand je me consacre. Les rois étaient oints, les prophètes étaient rois, étaient oints, etc., etc. L'onction, c'est quand je me mets à part pour Dieu. Tout à l'heure, une personne, vous ne savez pas qui c'est, une personne est venue me voir et m'a dit qu'il y a quelques mois en février, le 15 février, elle était en train de regarder à la télévision des choses paranormales. Vous savez, ces genres d'émissions. Pendant qu'elle a regardé ça, elle a senti quelque chose la saisir, comme l'étouffer. Elle n'a plus pu parler, elle avait quelqu'un à côté d'elle. Elle s'est retrouvée, elle a cru qu'elle allait mourir. C'était une personne rétrograde. Je ne crois pas que les enfants de Dieu sont atteints par ces choses sans raison. Mais cette personne, elle avait abandonné le Seigneur depuis 6 ans. Et alors qu'on lui disait, mais reviens au Seigneur, des personnes qui la connaissaient, elle refusait, elle résistait à Dieu et elle regardait ces choses. Et d'un coup, elle a vécu comme une oppression quelque chose. Pendant plusieurs jours, elle s'est sentie mal. Et il n'y a que quand elle est venue dans cette église qu'elle a retrouvé la paix. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on dit? Avec quoi on se nourrit? Qu'est-ce qu'on lit quelquefois? Veillons à toutes ces choses. Il faut qu'on se consacre au Seigneur. Toutes ces choses ouvrent une porte au diable. Et il a la main mise sur nous. Vous savez que Dieu détourne son regard du péché. Et si un enfant de Dieu se mettait à se replonger dans le péché, c'est comme Jésus, aussi saint soit-il à un moment, le péché est venu sur sa vie. Dieu a détourné son regard, il a porté nos péchés. Et la conséquence, c'est que le regard de Dieu s'est retiré. Et quand Dieu ne nous regarde plus, sa protection s'éloigne. Il y a toutes sortes de choses qui sont comme cela. On est abandonné. Jésus a été abandonné. Voulez-vous être des enfants abandonnés ou rester des enfants de Dieu? Il nous faut nous consacrer. L'onction va nous pousser dans la connaissance, va nous emmener dans la connaissance de Dieu. Et hors de ce texte, il y a la communion fraternelle. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Cinquièmement, le point de départ de la connaissance de Dieu. Il n'y a qu'un seul point de départ. Pour commencer à connaître Dieu, il y a un point de départ. Une seule bannière, c'est la croix. Comment vous avez connu Dieu, sinon en commençant par accepter l'œuvre de la croix de Jésus pour vous? Le point de départ de la connaissance de Dieu, c'est, et ça restera toujours, la croix de Jésus. Il n'y a pas d'autre départ. On ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux par un autre chemin, par une autre personne que la personne de Jésus et son œuvre. Jésus s'est donné pour nous. On a chanté « La vie si pure, si belle, voudrais-tu commencer ?» Vous l'avez chanté avec moi ? Heure bénie en compagnie de Jésus mon Sauveur. La vie nouvelle, si pure, si belle, voudrais-tu commencer ? Si on veut la vie éternelle, si on veut connaître Dieu, puisque la vie éternelle c'est de connaître Dieu et son Fils, il faut commencer par l'œuvre de la croix. Et je commencerai maintenant, courtement, à m'adresser aux personnes nouvelles. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné son cœur au Seigneur. Peut-être que quelqu'un ne connaît rien de Dieu, il connaît une religion et du coup il ne connaît rien de Dieu puisqu'il ne le connaît pas personnellement. C'est comme Job, il dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Puissiez-vous voir l'Éternel agir dans votre vie, dans votre cœur, dans tout votre être, vous restaurer, vous donner sa paix, cette vie éternelle, cette qualité de vie qu'il propose à chacun ?» Le point de départ pour une belle vie, pour connaître Dieu, c'est la croix. Ce que Jésus a fait, ce que Dieu a fait, c'est la croix. Il a envoyé son Fils, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce que Dieu a voulu, la manière dont il a voulu se faire connaître, au-delà des plus grands miracles qu'il a fait, puisque malgré les miracles, des gens n'ont pas cru, Dieu a fait une chose principale, c'est la croix. Jésus s'est donné sur le bois de la croix, il s'est donné tout entier. La croix nous parle de l'amour de Dieu. Chaque personne a de la valeur aux yeux de Dieu. Comment connaître Dieu ? Ben, je regarde la croix et je dis, mais il fallait vraiment que Dieu m'aime pour donner son Fils unique pour moi. Il fallait vraiment que Dieu m'aime pour qu'il vienne effacer mes péchés en son Fils sur la croix. Il fallait que Dieu m'aime pour avoir autant de patience envers moi et pour qu'il attende qu'aujourd'hui, je l'accepte. Et de retenir, puisque s'il nous parle d'amour, la croix aussi nous parle de la colère de Dieu. Il me faut l'aborder. La colère de Dieu, la croix, c'est la colère qui s'abat sur Jésus pour ne pas s'abattre sur nous. La croix, c'est Dieu qui punit les péchés du monde. C'est le châtiment qui tombe et qui est la conséquence du péché de chacun. C'est votre péché, c'est mon péché qui tombe sur Jésus. La colère qui a tiré mon péché qui tombe sur Jésus. La croix nous parle de la colère parce que Dieu est saint. Et elle nous parle de la sainteté de Dieu aussi. Dieu est tellement saint qu'il ne peut accepter dans son ciel au paradis. Il ne peut accepter quelqu'un de souillé à cause de son péché et par son péché. Dieu ne peut pas faire rentrer dans le ciel quelqu'un qui a commis des fautes, quelqu'un qui a été égoïste, quelqu'un qui l'a méprisé, qui a été même ignorant, qui n'a pas voulu le connaître. La croix nous parle de la sainteté, de la pureté de Dieu, qui ne peut pas tolérer quelqu'un de souillé. Bien qu'il l'aime, il ne l'accepte pas. À moins que cette personne accepte le pardon de Dieu à cause de Jésus qui a porté le poids de nos péchés sur la croix. Le point de départ pour la connaissance de Dieu et de son Fils, c'est de passer par la croix. Et peut-être qu'à nous, en tant que chrétiens, il ne faut jamais revenir peut-être à cette vérité de la croix, qu'à cause de nos péchés, Jésus est mort. Et peut-être quelqu'un est là ce soir et il est comme ce qui est dit dans les Épîtres, que quelqu'un, après avoir connu Dieu, est retourné dans le péché, a recommencé à pratiquer le péché. Et pour lui, tant qu'il reste dans ce péché, il n'y a plus de pardon, puisqu'il n'y a pas de deuxième sacrifice, à moins qu'il revienne au premier sacrifice, qu'il reconfesse son péché à cause du premier sacrifice et du seul, celui que Jésus a accompli sur le bois de la croix, et qu'il confesse à nouveau son péché, qu'il dit « Seigneur, oui, c'est vrai, j'ai sali mon âme à cause des grossièretés, des choses que j'ai vues à la télé, que j'ai tolérées, que j'ai même aimées. J'ai souillé mon âme en retombant dans les choses que j'avais renoncées, que j'avais dit que je quitterais. J'ai souillé mon âme en trouvant de nouvelles choses, de nouvelles occupations. J'ai souillé mon âme tout simplement en t'oubliant. Parce que quand le cœur de l'homme se vide de Dieu, il se remplit par toutes sortes d'autres choses. » Cette jeune fille me disait, j'ai gâché 6 ans de ma vie. Je pensais que je pouvais être chrétienne 6 ans ailleurs. Je pensais pouvoir être chrétienne loin de Dieu. Loin de la communion fraternelle, loin de la Bible, de la lecture, loin de la prière. Et elle m'a dit, ce jour-là, j'ai réalisé que j'étais en danger. Elle s'est mise à relire la parole, à chercher un endroit où elle pouvait aller à l'église. Elle a fait plusieurs églises. Et puis quand elle est arrivée là, elle a été touchée. Et le Seigneur travaille son cœur. Et le Seigneur la restaure. Puissions-nous réaliser que Dieu veut qu'on se souvienne à chaque fois de la croix. Peut-être quelqu'un n'avait jamais entendu parler. Jésus nous aime, Dieu nous a aimés. Il a donné son Fils sur le bois de la croix. Ce n'est pas un récit, ce n'est pas qu'une histoire, c'est la vérité. C'est la conséquence de notre péché. Puissions-nous terminer ces moments en ayant cette pensée à l'idée. J'ai entendu des choses de toi, mais maintenant je veux que mon œil te voie. Je veux que mon œil, les yeux de mon cœur, les yeux de la foi, puissent voir ton action dans ma vie. Seigneur, je ne veux pas te connaître qu'en intelligence, en raisonnement. Je veux te connaître en vérité, en action dans ma vie. Je veux te connaître personnellement. Amen.